Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point actualité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël avait largué hier 153 tonnes de bombes sur Gaza, des frappes meurtrières en violation du cessez-le-feu. Au lendemain du cambriolage du Louvre, la police est aux trousses de 4 malfaiteurs partis avec 8 joyaux de la couronne de France. Un vol spectaculaire qui met en cause la sécurité des musées. Comment un tel vol a pu être commis dans le musée le plus visité au monde? Réponse d'Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, à suivre dans notre dossier du jour. Et on débute ce rendez-vous d'information par la situation dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël avait largué hier 153 tonnes de bombes sur Gaza, des frappes meurtrières en violation du cessez-le-feu. Et la branche armée du Hamas a annoncé qu'elle restituerait à 17h une dépouille d'otages qu'elle avait annoncé avoir retrouvée hier. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés en Israël pour suivre l'application de cet accord. En France, au lendemain du cambriolage du Louvre, la police est aux trousses de 4 malfaiteurs partis avec 8 joyaux inestimables de la couronne de France. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, va envoyer une instruction à tous les préfets pour qu'ils renforcent, si nécessaire, la sécurité des établissements culturels. Et enfin, Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy vendredi dernier, avant son incarcération à la prison parisienne de la Santé demain. Emmanuel Macron a jugé qu'il était normal sur le plan humain qu'il reçoive son prédécesseur, ce sont ses mots. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il rendrait visite à l'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Merci d'écouter Radio Orient, les dossiers du jour. Une évolution positive en perspective des relations entre la France et l'Algérie. Selon les mots du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il faudra à un moment reprendre le dialogue avec les Algériens sur les questions de sécurité et d'échange d'informations. Laurent Nunez, pour qui la relation entre Paris et Alger dépend largement du Quai d'Orsay. Et c'est un élément très important, comme le souligne le correspondant à Alger pour l'hebdomadaire français Le Point, Adeline Mehdi.
L'actuel ministre de l'Intérieur explique très nettement que la relation avec Alger ne dépend pas que de lui. Lui, il s'occupe du côté sécuritaire, migratoire, du bilatéral, qui est bloqué. Mais il veut le rationaliser, cette question, au lieu de toute hystérisation, comme l'a fait M. Retailleau. Et de dire très simplement, le ministre de l'Intérieur actuel dit très simplement et très clairement que les relations avec l'Algérie, c'est aussi et surtout le Quai d'Orsay, qui est une démarche qui tranche avec la démarche du ministre, de l'ancien ministre de l'Intérieur, qui disait même que la diplomatie des bons sentiments n'a pas lieu d'être avec l'Algérie, qui s'immisçait dans les canaux diplomatiques entre Alger et Paris. Donc là, on est face à une double dynamique. La première dynamique, c'est de revenir un cadre beaucoup plus rationnel du traitement sécuritaire et migratoire, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui le fait, et de l'autre côté, essayer de renouer le contact via les canaux officiels, les canaux normaux et normatifs qui sont les canaux diplomatiques et les canaux sécuritaires.
Et c'était d'ailleurs une première sous la Ve République, une division au sein même d'un gouvernement français entre le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères sur le dossier algérien.
Parce que tout simplement, comme l'a très clairement dit Alger était insupporté par le fait que le bilatéral est devenu un enjeu politicien pour Monsieur Retailleau, et cela a créé beaucoup de tensions et qui se sont cristallisées sur la personne du président. Je rappelle que le président Tebboune avait dit au journal L'Opinion en février dernier qu'il n'y aura aucune discussion avec Monsieur Retailleau, qui cristallise cette tension et cette hostilité. Donc il est arrivé à une sorte de blocage absolu à cause d'un enjeu intérieur. Alors que le Quai d'Orsay défendait les intérêts de l'État français, Et on voyait que M. Retailleau défendait ses propres intérêts de présidentiable et de candidat au LR à la présidence du LR à l'époque. Donc c'est cette vision-là qui semble disparaître, cette posture-là qui semble switcher vers une posture beaucoup plus étatique, on va dire. Et que les deux États puissent se parler sans qu'il y ait une interférence politicienne, sans qu'il y ait l'hystérisation du débat autour de questions très sérieuses et très importantes pour l'État français, pour l'opinion française, les OQTF, la question migratoire. Alger comprend très bien que c'est important, sauf qu'il faut sortir du côté passionnel et irrationnel qui a été poussé par M. Retailleau à l'époque.
Avec comme perspective un retour à la normale dans les relations entre la France et l'Algérie, ou est-ce trop tôt pour le dire?
C'est trop tôt pour le dire, c'est souhaitable. De mon point de vue personnel, en tant que journaliste qui s'intéresse au bilatéral, en tant qu'Algérien qui connaît la profondeur des relations humaines, économiques, démographiques, historiques, économiques aussi entre les deux pays, dans l'intérêt mutuel des deux sociétés, bien sûr. Parce que trop de ruptures ne peut mener qu'à trop d'incompréhension, de malentendus, de haine parfois, de discours haineux des deux côtés. Et pour éviter cela, il faudrait aller doucement vers une normalisation qui n'est pas encore acquise, qui est un horizon encore lointain. Mais c'est-à-dire, si on commence déjà à poser les bases même d'un nouveau dialogue ou d'une nouvelle manière de poser le bilatéral et de le réfléchir, ça peut déjà partir sur de bonnes bases pour un rapprochement prochain, j'espère.
Et vous venez d'écouter Adeline Mehdi, correspondant à Alger pour l'hebdomadaire français Le Point, au micro de François-Xavier de Calonne. Et c'est la stupeur après le cambriolage ce dimanche au musée du Louvre. Un commando de 4 hommes a volé en plein jour dans la matinée des joyaux d'une valeur jugée inestimable, dont un diadème impérial auprès de 2000 diamants. Les cambrioleurs se sont introduits dans la galerie d'Apollon du musée. Il abrite notamment les joyaux de la couronne de France. Ils ont brisé les fenêtres de la salle à l'aide de disqueuses après s'être hissés depuis l'extérieur sur une nacelle. Mais comment un tel vol a pu être commis dans le musée le plus visité au monde? À notre micro, Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.
On peut se poser la question, comment ça se fait qu'ils ont pu approcher aussi près du Louvre? Mais vous savez, Paris est depuis de nombreuses années en travaux. Il y a des chantiers absolument partout, des palissades absolument partout, des chantiers qui n'avancent pas. Donc on ne prête plus attention, finalement assez attention, quand vous avez des chantiers, des travaux et des individus qui avaient des gilets siglés avec la mairie de Paris. Donc on a pu effectivement penser, mais en tous les cas, vous savez, il y a eu une réaction courageuse d'un témoin qui a tout de suite vu ce manège et a vu que c'était suspect, a prévenu les services de police. Donc les policiers sont arrivés assez rapidement, c'est pour ça que les personnes dans la panique ont quitté précipitamment les lieux. S'ils n'avaient pas été détectés, je pense pas qu'ils auraient fait toutes ces erreurs et abandonné du matériel, parce qu'ils ont dû entendre les sirènes de police se rapprocher d'eux, et c'est pour ça qu'ils sont partis rapidement avec des puissants scooters.
Et cela paraît incroyable, hein, ce que vous dites, hein, le fait que ce soit un témoin qui alerte la police dans ce lieu de renommée internationale.
Oui, alors on était sur les quais, hein, c'est côté des quais, donc on n'est pas sur les entrées, hein, puisqu'on est aussi, depuis de nombreuses années, on a accentué, si vous voulez, le filtrage pour la menace terroriste. Alors peut-être on a un peu délaissé la sécurité sur justement ces aspects de cambriolage, mais on est vraiment focus sur tout ce qui est possibilité d'attentat, d'attaque terroriste, avec un individu qui viendrait dans le musée du Louvre avec de l'armement pour passer à l'action. Donc c'est vrai qu'il faut toujours juguler tout ça et prendre en compte toutes les menaces qui peuvent toucher ce bâtiment emblématique de la France.
L'actualité ces derniers mois était marquée par plusieurs ingérences étrangères, ou en tous les cas fortes suspicions d'ingérences étrangères. Est-ce là l'une des pistes envisagées?
Vous savez, les enquêteurs ne s'interdisent jamais à rien, donc ils vont fermer une porte, si vous voulez, donc ils vont essayer de voir si effectivement cette piste mène à quelque part ou pas. Donc oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la priorité, en tout cas la piste principale.
C'était Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.